l'interview de Nathalie Brutel-Milleron dans un café. Il va y avoir les bruits du quotidien et rien que pour ça, c'est génial. Bonjour Nathalie.
Bonjour Armelle. Je suis heureuse de te rencontrer aujourd'hui.
Je sais évidemment que tu as développé toute une activité sur le Mans depuis quelques temps. Je pensais moi que c'était l'hypnose et les acouphènes et tu me dis que c'est pas du tout l'hypnose, c'est de la sophrologie. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques un peu la différence avec l'hypnose et je connais pas beaucoup la sophrologie.
La sophrologie, on est quand même sur les mêmes champs par rapport à l'hypnose. On est sur les mêmes zones du cerveau. Et on est toujours sur cet espace qu'on appelle sophroliminal, c'est-à-dire entre veille et sommeil, alors que l'hypnose nous emmène un petit peu plus loin. Et du coup, on est uniquement avec cet allié qui nous veut du bien, c'est-à-dire notre subconscient. Nous aussi, on travaille un peu avec le subconscient, mais on travaille toujours en conscience. Et c'est ça la grande différence. C'est vraiment la limite du conscient et de l'inconscient. Et l'hypnose, on bascule sur quelques degrés, mais ça change tout.
Est-ce qu'il y a des gens qui font de l'hypnose et qui travaillent aussi avec les acouphènes ou se spécialiser avec la sophrologie?
Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu de spécificité. Ceci dit, moi, j'ai une formation initiale aussi un peu en hypnose. Donc, je dois avouer que je m'en sers un tout petit peu. Mais je reste dans le champ de la sophrologie, toujours sur ce champ du conscient, pour que les gens puissent prendre en main les choses et avoir une action consciente sur leurs difficultés. Tous ces sons qui sont autour de nous, comme peut-être là, où ce sont ces sons qui sont dans notre tête et qui parfois nous dérangent, voire nous envahissent.
Les acouphènes, d'où ça vient?
Les acouphènes, ces sons que tu as dans la tête ou dans les oreilles, ça peut être à différents endroits, à droite, à gauche, derrière, eh bien ça vient d'où? D'abord, d'une première chose, d'un traumatisme sonore. Par exemple, le traumatisme sonore de « j'ai été en boîte de nuit, j'ai été au concert ». J'ai été très proche des enceintes et paf, je sors. Après 2-3 heures, j'ai les oreilles qui bourdonnent, j'ai des acouphènes. Je dors dessus et je me réveille, tout va bien, j'ai plus d'acouphènes. Puis je retourne et encore, parce que j'ai 18 ans, je suis invincible et tout va bien. Et je monte le son encore plus fort. Et un jour, eh bien mes acouphènes ne s'en vont plus. Et elles sont là. Et elles sont là pour le reste de ta vie. Ça, c'est la première chose qui donne des acouphènes. Tu as aussi le choc sonore. Alors, c'est pas un choc sonore, c'est plutôt tous ces gens qui travaillent en usine, comme ici, chez Renault, on a eu, enfin bon, d'autres types d'usines. Eh bien, si on regarde à 60 ans, tous ces gens qui ont travaillé dans des environnements sonores, ou sur les 24 heures, hein, on a plein d'occasions, eh bien, ils ont une perte d'audition plus importante. Il y en a beaucoup plus qui ont des acouphènes. Parce qu'il y a cette usure de l'oreille et aussi l'usure par rapport aux décibels. C'est-à-dire que notre oreille peut filtrer un certain nombre de sons et on porte peu de bouchons, de casques, ou on le fait quand c'est trop tard. Parce qu'on peut supporter. Mais notre oreille, elle s'use et ça ne se répare pas. Et à un moment donné, eh bien, le fait d'être dans cet agacement, dans cette pression, ça fait venir les acouphènes qui restent aussi nos compagnons. Et puis après, il y a les accidents. Un accident de voiture, le coup du lapin, qui va aussi endommager à l'intérieur et qui va générer des acouphènes. Après, on a les chocs de la vie, le choc affectif, la perte de quelqu'un, une maladie, un traumatisme quel qu'il soit, une rupture ou plein d'autres choses, eh bien, je peux générer en réponse des acouphènes, mais ils restent là et ils sont toujours là, sollicités par notre interrogation interne, parce qu'on est plus triste, parce qu'on est désespéré, et parce qu'on est désespéré, on a des acouphènes, parce qu'on a des acouphènes, on est désespéré. Et ça peut être un choc émotionnel.
Une surcharge émotionnelle.
Ça fait partie des choses, mais ce n'est pas uniquement. C'est aussi des choses très techniques, un choc physique, un traumatisme sonore. Mais il y a aussi le choc émotionnel. Et puis après, il y a l'émotion qui est un facteur aggravant ou un facteur qui nous permet de gérer au mieux. Parce que quand on va gérer l'émotion, on va aussi gérer notre curseur acouphénique. Forcément, ça va être plus j'ai une émotion forte, plus, suivant les uns et les autres, hein, mon acouphène qui va monter. Plus je vais gérer cela, plus ça va descendre. Et puis, c'est comment je vais faire avec ça. Et puis, il y a toutes les choses inconnues et quelques maladies, comme la maladie de Ménière, qui est une maladie identifiée, vertige et acouphène, perte d'audition et acouphène. Et puis, quelques autres grosses choses, mais très rares, des tumeurs particulières, comme la mâchoire, le nez, les yeux. Si on regarde à l'intérieur, tout se rejoint. Quand on a une sinusite, on peut avoir les oreilles bouchées. Quand on a les oreilles bouchées, qu'est-ce que ça fait? Les acouphènes, généralement, ils n'aiment pas parce que ça amplifie ce son à l'intérieur. C'est pareil, le fait de mettre des bouchons. On se dit, ben, je vais enlever ces sons et je vais mettre des bouchons. Eh oui, mais du coup, j'ai les sons à l'intérieur beaucoup plus importants. Et ça dépend des uns et des autres. Est-ce qu'avec l'acouphène, j'ai développé une hyperacousie? L'hyperacousie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas supporter des sons. Ça peut aller jusqu'à ne pas supporter le bruit de la fourchette et du couteau dans l'assiette. Ce qui fait que les gens qui sont vraiment en grande souffrance mangent avec des couverts en plastique, des assiettes en plastique, parce qu'ils ne peuvent plus supporter aucun son. Ils sont hyperacousiques, ils ne sont pas forcément ce qu'on appelle acouphéniques, c'est-à-dire avec ces sons en interne. Eux, ils ne peuvent pas supporter les sons. Mais les hyperacousiques, si ils s'isolent complètement, ils amplifient ce phénomène insupportable des sons extérieurs. D'où l'importance de travailler quand même sur le son. Et par exemple, si on travaille avec des musiciens, c'est important la musique. Et dans la musique, c'est important le silence. Et si je mets très fort, je ne vais pas sentir, entendre, je ne vais pas vibrer avec toutes les subtilités des sons et de la variation des sons. Et c'est ça qui est intéressant quand on travaille aussi avec les acouphènes, c'est d'arriver à trouver les bons curseurs qui permettent de supporter, d'entendre, d'accepter, de ne pas être envahi et à la fois d'avoir la bonne distance. C'est vrai que c'est un phénomène très complexe et très individuel. D'abord, essayer de trouver comment ça marche.
En quoi la sophrologie ou l'hypnose peut aider à maîtriser?
Ça peut aider certaines personnes et on va d'abord avoir un échange avec la personne pour déterminer est-ce qu'elle connaît les causes, elle ne les connaît pas forcément. Si elle les connaît, eh bien de voir à quel moment aussi les acouphènes sont plus importantes. Est-ce qu'elles descendent? Est-ce qu'elles s'arrêtent complètement? Est-ce que parfois elles sont inexistantes? Et est-ce que la partie stress, est-ce que la partie sommeil, est-ce que la partie activité est une variante par rapport à cet acouphène ou à ces acouphènes? Et à partir de là, eh bien, je vais mettre en place un protocole sur entre 5 et 10 séances. On fait toujours un point à 5 séances pour voir où on en est. Et puis, on avance comme ça. Alors, l'acouphène, qu'est-ce qu'on va faire dans ce moment-là? D'abord, on va évaluer le degré de l'acouphène. Moi, je travaille avec un questionnaire qui est utilisé partout dans le monde, qui nous donne déjà une mesure. Et à partir de cette mesure, on va voir si c'est, je dirais, important, moins important, si on pense que c'est grave ou si c'est plutôt quelque chose qui est très gênant. Et ensuite, on va tester la réception de la personne qui est en face. Est-ce qu'on fait des exercices dynamiques, de respiration, d'intention? C'est toujours l'intention qui va mener le reste. Et on va commencer à faire cette alliance entre la tête, le corps et l'émotion. Par exemple, j'ai l'intention de repousser mes acouphènes. Mais je vais le faire en conscience, en respiration, avec des mouvements particuliers. Par exemple, je vais imaginer mon acouphène devant moi. Je vais prendre mon poing, je vais inspirer, je vais taper faire reculer cet acouphène et expirer pour le pousser encore. Et c'est d'abord mon intention. Je ne vais jamais faire comme s'il n'existait pas. Je vais aller le chercher. Et je vais tenter de chercher, est-ce que je dois le pousser sur le côté? Est-ce que je dois lui taper dedans? Est-ce que je dois faire autre chose? Comment est-ce que je peux faire les choses? Donc j'utilise beaucoup d'exercices très différents, suivant les uns et les autres, qui se font debout, assis, couchés, suivant les uns et les autres. Et par exemple, si je ne peux pas me lever parce que j'ai un handicap, eh bien je vais juste imaginer que mon corps est debout déjà. Je vais reprendre ces sensations dans mon corps pour habituer les pensées à être en accord avec ce qui se passe dans mon corps. Quand je dis à mon corps « marche », si je peux marcher, je marche. Je ne dis pas à mon corps « respire ». Il respire tout seul. Mais par contre, je peux lui demander de mieux respirer. Et souvent, ça ne marche pas. Parce qu'à ce moment-là, je suis bloquée. Et donc, progressivement, je vais amener mon corps et ma tête à fonctionner doucement ensemble pour que le corps puisse prendre le relais de la tête ou de l'émotion. En tous les cas, c'est toujours attraper, par exemple, cette émotion qui fait que le cœur s'emballe parce que mes acouphènes sont dans la tête, pour aller chercher une autre émotion ou pour enlever l'émotion qui est stressante et prendre une émotion de calme et la mettre à l'intérieur. Ça, c'est la première partie du travail. Puis ensuite, on va travailler sur la relaxation pour aller sur cette onde du cerveau entre veille et sommeil et permettre d'aller sur un travail un peu plus profond, sur une intention que l'on va construire, que l'on va travailler. Et la personne va faire ses exercices pendant une semaine, deux semaines, et puis on va continuer comme ça sur une évolution en fonction des uns et des autres. On va avancer au rythme de la personne pour petit à petit prendre confiance dans son corps et dans les réponses du corps, de la tête, de l'émotion. Et souvent, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place ce qu'on appelle un processus d'habituation. C'est-à-dire que quand l'acouphène arrive, je vais dans une partie de mon cerveau, l'acouphène va être là, mais il ne sera pas l'image centrale, mais ce sera le fond d'écran. Et il y aura autre chose en image centrale, ce qui va permettre de ne pas subir et juste de savoir, il est là, mais il n'est plus si important. Et moi, je peux surtout reprendre la main sur ce qui se passe dans ma vie, dans mon existence. Tu es là, mais tu es un compagnon. On ne remplace pas par autre chose. On laisse la place à la vie, à notre courant, et l'acouphène est là, mais très doucement derrière. Et quand il veut reprendre le haut de l'affiche, eh bien, justement, on a acquis des techniques avec les séances de sophrologie pour reprendre la main. Au départ, on fait beaucoup d'exercices pour apprendre au corps et non pas à la tête. C'est pas qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois faire. Et c'est le corps qui va faire. Et à chaque fois, je dis, tiens, cette émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Et petit à petit, je vais vraiment être tranquille, amener quelque chose de doux et tranquille. Et surtout, l'assurance que je peux reprendre la main. C'est moi qui ai la main. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose d'autre. Il n'y a pas de médicaments, mais il y a cette formidable chose qui est notre capacité et reprendre confiance sur qui on est. Alors, le faire tout seul, ce n'est pas toujours possible. Donc, du coup, il faut faire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Mais avec 5, 10 séances, on a suffisamment d'outils pour aller dans cet espace-là. Il se peut que quelquefois, on s'aperçoive que derrière ce petit compagnon qui est l'acouphène, il y a d'autres choses sur lesquelles on se dit que peut-être on pourrait avancer un peu plus, tout simplement pour être heureux, plus heureux, ou vivre bien au quotidien. En fait, c'est ça qui est le plus important. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce travail, c'est le fait de pouvoir être dans cet échange et que chacun fasse son chemin. Et surtout, par rapport à d'autres thérapies, on n'est pas obligé de tout raconter. On fait son chemin, j'accompagne sur le chemin, et on ne me raconte pas tout. Ce n'est pas ça. Moi, ce qui est surtout important, c'est qu'est-ce que tu sens là, dans ton corps, et non pas qu'est-ce que tu penses dans ta tête. Comme quand tu respires, inspire, expire. Et juste, qu'est-ce que ça fait quand tu inspires, quand tu expires? Essayez là, inspirez, expirez. Et sentez la différence en termes de chaleur, en termes de sensation à l'intérieur. Et du coup, où est mon attention? Je suis dans mon corps et dans ma respiration. Ça, c'est vraiment un espace fondamental. Voilà comment j'amène sur ce chemin-là.
En dehors de la sophrologie, est-ce qu'il y a d'autres portes d'entrée?
Bien sûr, il y a plein d'autres portes d'entrée. D'abord, les acouphènes, ce n'est pas une maladie. C'est vraiment une grosse difficulté qui est importante pour les gens qui ont ces acouphènes. C'est un travail qui a à faire en fait avec l'ORL qui va détecter si déjà on a de la perte auditive. Par exemple, la première des choses, c'est de s'appareiller. Parce que, à contrario de ce qu'on croit, si on est appareillé, ça peut faire baisser les acouphènes. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est aussi d'abord une première solution. Peut-être que certains sons vont faire diminuer cette sensation d'acouphène. Dans ce cas-là, l'audioprothésiste peut mettre en place avec, dans les appareils, ce qu'on appelle des bruits blancs qui peuvent vous correspondre. Et parfois même, ce sont des voix. Par exemple, on pourrait mettre en fond sonore quelqu'un qu'on aime bien. Par exemple, si moi j'aime bien la voix de J'ai 5 minutes, eh bien je vais mettre tous les podcasts de 5 minutes. Je ne vais pas forcément les écouter, mais mettre cette voix en fond sonore pour apaiser mes acouphènes. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité. Et puis, je peux avoir eu des problèmes de mâchoire. Important d'aller trouver le bon ostéo qui va faire en sorte que si les cervicales sont remises, si la mâchoire est bien placée, eh bien je vais diminuer cette intensité. Parce qu'il y a un phénomène mécanique. Pour d'autres personnes qui sont insensibles à la sophrologie, c'est à peu près 25% des gens qui peuvent venir qui ne sont pas du tout réceptifs. On ne peut pas être réceptif à tout. Eh bien, à ce moment-là, on peut aller voir aussi un acupuncteur, par exemple, ou un psychologue en TTC, thérapie cognitive et comportementale. Donc, suivant les uns et les autres, si justement on peut travailler en équipe pluridisciplinaire, avec en chef d'orchestre, logiquement, l'ORL, eh bien, on va aller vers un sophrologue, vers un thérapeute en TTC, vers un acupuncteur, vers un ostéo, ou peut-être qu'une composition des uns des autres va donner un meilleur résultat. Mais en tous les cas, c'est important de ne pas laisser la personne repartir si la sophrologie ne marche pas. Et puis, c'est aussi, certains audioprothésistes, de plus en plus, peuvent mesurer ces acouphènes. Et ça, c'est aussi important de savoir que ce n'est pas que notre fait et qu'on peut mesurer cet acouphène. C'est un travail un peu plus précis, ça demande un peu de temps, mais on a autour de nous des audioprothésistes qui sont ouverts à cela. Et c'est vraiment important pour la personne qui a des acouphènes de savoir que ce n'est pas de son fait et que c'est quelque chose qui est aussi mesurable. Déjà d'être reconnu, c'est pas mal.
Puisqu'on est en radio, vous nous avez dit que les voix peuvent aider. Est-ce que la musique peut aider également à maîtriser ou à diminuer la sensation d'acouphène?
Ça peut aider pour déjà diminuer le stress. On sait très bien que la musique adoucit les mœurs, c'est ce qu'on dit. Et puis aussi, il y a des sons et des types de musique. Mais à chacun, en fonction de son oreille et de l'époque de sa vie, d'aller chercher la musique qui lui correspond. Et surtout, la chose la plus importante, les décibels. Les décibels. C'est-à-dire qu'avec un fond sonore de 30 décibels, ça suffit à calmer le jeu. Par contre, cette même musique, ces mêmes sons qui montent à 60 décibels deviennent un enfer. Effectivement, c'est une sacrée recherche. Et beaucoup de musiciens ont des acouphènes, mais ils ne le vivent pas tous de la même manière.
Alors justement, on est dans une génération où les jeunes écoutent beaucoup de choses au casque. Est-ce que dans les patients, on a de plus en plus de jeunes qui sont sujets aux acouphènes?
Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de jeunes, parce que les jeunes ont du mal à venir pour ce genre de choses-là. Mais ceux qui ont des acouphènes terribles. Terribles, terribles. Et du coup, ils sont en désespérance. On ne peut pas dire autre chose. Voire en déprime importante à cause de ces acouphènes. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont écouté trop de musique au casque. En tous les cas, on n'a pas encore ce recul-là. Nous, sur les études, moi, je fais partie du groupe Pôle Sophrologie Acouphène. Je crois qu'on est 240 ou quelque chose comme ça de mémoire. Et on a fait beaucoup d'études. On travaille avec des groupes d'ORL. Et effectivement, c'est plutôt les chocs sonores qui sont les plus importants. Mais à contrario de ce qu'on peut penser, les jeunes sont plus avertis. Il y en a quand même plus qui ont des bouchons d'oreilles. Quand on était dans les années 80, on pouvait les compter sur les doigts, ceux qui avaient des bouchons d'oreilles. Et même si aujourd'hui, écouter la musique fort, c'est sentir les vibrations de la musique, eh bien, on peut faire l'expérience. Si on a des bouchons d'oreilles, on a quand même cette vibration de la musique à l'intérieur. D'ailleurs, il y a des gens sourds qui viennent au concert parce qu'ils sont sur la vibration. Et sur cet espace de vibration, moi, j'invite tout le monde à aller. On est au Mans. On a eu Le Mans Sonore, qui a été une expérience formidable. Et puis, on a une université avant-gardiste. Allez regarder ce que fait l'université. Allez rencontrer les chercheurs. Allez chercher la vibration et un joli son, plutôt que le son le plus fort possible, celui qui détruit l'intérieur. L'idéal, c'est d'écouter de la bonne musique et d'avoir la totalité des sons. Et un certain nombre de jeunes ont compris cela. Par contre, la problématique qui se profile, c'est le temps d'écoute. Il faudrait avoir autant de temps de repos que de temps de stimulation de l'oreille. Et vous avez dû remarquer, quand on regarde quelque chose, nos yeux peuvent regarder. Quand ils ne veulent plus regarder, ils ont des paupières, ils ferment les écoutilles. Où sont les portes de fermeture des oreilles? Elles n'existent pas. Alors, à chacun de faire en sorte d'être dans un environnement silencieux de récupération pour profiter de tous les sons autour de vous.
Grand merci Nathalie Breteul-Milleron. Elle est sophrologue et spécialisée dans les acouphènes, entre autres parce que je sais qu'elle a beaucoup d'autres cordes à son arc.
Merci beaucoup et à une prochaine fois, je l'espère.
Avec grand plaisir. Au revoir.